Vous écoutez
RMC.
Estelle Midi, comme tous les jours, midi 15h sur RMC, RMC Story, le canal 23 de la TNT. Nous sommes en direct du stand de la belle, de la très belle, je ne dis pas ça parce que c'est la mienne, mais très belle région des Hauts-de-France, depuis le Salon de l'Agriculture, Porte de Versailles, à Paris. Estelle n'est pas là aujourd'hui, elle est en vacances, elle sera de retour avec nous dès lundi prochain. Autour de moi aujourd'hui, Alfred Orange, journaliste RMC, Daniel Riolo, journaliste RMC également, Perry Collegas, journaliste à Marianne Yael Mellul, ancienne avocate présidente de l'association Femmes et Libres. Dans un instant, on va parler de la crise de la filière agricole bio, de la filière française. Le bio a-t-il encore un avenir? Vous nous appelez au 3216. À 14h30, RMC s'engage pour vous. Johanna Chabas et l'enfer des propriétaires de maisons endommagées par la sécheresse. À 14h40, les immanquables, Alfred. Et puis on joue aujourd'hui.
RMC vous offre vos places pour une affiche de rêve mercredi prochain, mercredi 8 mars. Le PSG se déplace à Munich pour affronter en match retour le Bayern en Ligue des Champions. Et nous vous proposons de vivre l'expérience RMC, le voyage à Munich avec Oussem Moussaïev de l'Afterfoot, la rencontre avec Jeannoré Ségué avant le match. Et bien sûr, votre place pour le match Bayern-PSG. Restez bien à l'écoute toute la journée sur RMC dès que vous entendez ça. À partir de ce moment-là, vous aurez 5 minutes pour vous inscrire en envoyant foot au 7-32-16. Foot au 7-32-16.
RMC Estelle Midi.
L'effondrement du jour, effondrement de la filière agricole bio en France. On lui promettait un avenir radieux il y a encore peu, mais Alfred, aujourd'hui, tous les voyants sont au rouge.
Oui, pas une journée sans un appel à l'aide de leur part. Aujourd'hui, les laitiers bio, on l'a appris, réclament une aide d'urgence. La moitié de leur production pourrait être en excédent en 2023. Ils ont d'ailleurs manifesté hier, ici au Salon de l'Agriculture, parce que la consommation de lait bio n'a pas augmenté ces dernières années. En revanche, la production de lait bio a, elle, augmenté de 40% depuis 2018. L'interprofession réclame donc une aide d'urgence de 71 millions d'euros. Cet appel au secours traduit une réalité. Les Français mangent moins bio. Aujourd'hui, la consommation a baissé en 2021, alors que jusqu'alors, les hausses étaient continues de l'ordre de deux chiffres par an. 3% des fermes bio ont arrêté le bio l'année dernière. C'est trois fois plus que d'ordinaire. Les fermetures de magasins se multiplient aussi. 224 magasins bio ont fermé l'année dernière contre 111 ouvertures. C'est la première fois que ce rapport est inversé. La filière Rémy prend donc un sacré coup de frein.
Le bio a-t-il encore un avenir? En achetez-vous encore? Vous nous appelez au 3216. À mes côtés, il y a Christelle Vendroux. Bonjour Christelle.
Bonjour.
Bienvenue dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Vous êtes créatrice de l'atelier Honoré. L'atelier Honoré, producteur de moutarde dans l'Oise. Là, j'ai une moutarde à l'ancienne au vinaigre de cidre à côté de moi.
Tout à fait.
Et vous travaillez vous-même avec, vous me disiez tout à l'heure, pour les graines de moutarde, avec un agriculteur, producteur bio. Qui est dans le nord de la Somme, vous m'avez dit ça ?
Dans le nord de la Somme.
Dans le nord,
oui,
de la Somme.
Tout à fait.
Vous-même, vous êtes de l'Oise, c'est ça ?
De l'Oise.
Vous êtes,
ouais,
de la famille Vendroux ?
Non.
De Jacques Vendroux ? Non.
Même.
Oui, il y en a d'autres.
Ni madame, ni.
Voilà, je pensais plutôt à ça.
Pas madame, non.
Bon. Est-ce que vous-même, vous le ressentez, cette difficulté aujourd'hui pour la filière bio en France ? Vous la ressentez ?
Alors, nous, on n'a pas un gros recul sur la filière bio, puisqu'en fait, on a lancé notre aventure de moutarde il y a 5 mois maintenant. On commercialise depuis 5 mois, donc on n'a pas vraiment vu la baisse, en fait, des ventes bio. Par contre, c'est vrai que quand on est sur les salons, on se rend compte qu'il y a des personnes bio-convaincues. Donc nous, on était bio-convaincus, c'est-à-dire que l'idée, c'était vraiment de fabriquer un produit bio. Voilà. Après, les consommateurs sont aussi beaucoup sensibles au local. Voilà. Et nous, on n'a pas opposé bio et local parce que dans notre engagement, ça nous paraissait logique de contractualiser avec un agriculteur local, c'est-à-dire d'avoir des graines de moutarde qui viennent en fait de Picardie, en fait de la Somme, du vinaigre qui vient de la Somme et de fabriquer dans l'Oise.
Donc vous restez évidemment optimiste, l'affaire, elle est à ses débuts, mais vous croyez toujours au bio en France et au local.
Tout à fait.
Yael, est-ce que toi tu achètes du bio, tiens ?
Oui, moi j'achète du bio. Ouais, je suis très bio convaincue. Voilà, c'est comme ça, comme
ouais,
oui, absolument. Ouais. Mais c'est vrai que je peux comprendre qu'en ce moment il y a une diminution de la volonté d'acheter du bio, parce que bah, y a le problème de l'inflation, toujours on revient à ça. Hein.
Le prix.
Le prix. Mmh. Et donc, et on l'a vu tout à l'heure, il y a aujourd'hui de plus en plus de gens qui ont des problèmes pour s'acheter à manger. Donc forcément, ils ne vont pas aller, voilà, ils vont pas tout de suite aller acheter du bio. Donc c'est en fait, c'est une chaîne, voilà, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est un effet domino.
Ouais.
Et la chaîne bio, elle arrive, alors qu'elle a eu beaucoup de succès en fait pendant le confinement. Mais voilà, ça, c'est là où ça, on avait envie de produits locaux, on avait, voilà, mais aujourd'hui, c'est compliqué, c'est très compliqué. Et le pouvoir d'achat ne suit pas.
Vous êtes distribué comment ?
Alors, plutôt en circuit court. Alors, au départ, on avait pensé aux épiceries fines et aux boucheries. Et en fait, au final, on vend beaucoup en circuit court. C'est-à-dire, on est un complément pour des agriculteurs qui proposent en direct, en fait, leurs produits de la ferme et qui viennent commercialiser de la moutarde pour avoir une gamme plus large de produits.
Est-ce qu'on peut parler prix ? On parlait du prix. Le bio, c'est un peu plus cher que le conventionnel ?
Ah bah oui, c'est carrément le
pot de moutarde, le pot de moutarde que j'ai entre les mains, c'est un pot de moutarde de 195 grammes.
Oui.
C'est un petit pot de moutarde. Il est déjà pas mal. Hein. On peut déjà faire quelques repas avec ça et quelques recettes. Mais il est vendu combien ?
5,80.
C'est le prix du bio. Daniel,
quelle est ta question ?
Tu achètes
que je consomme du bio ?
Ouais.
Ça m'est arrivé. J'allais dire, est-ce qu'à un moment j'ai cédé à la mode comme tous les citadins ? Probablement. La seule question que je me posais, en fait, elle n'était pas tant je vais au Biocoop ou Naturalia ou ces machins-là et trucs et tout parce qu'il le faut, comme une sorte de pression qu'on te mettait sur... Moi, c'est est-ce que c'est meilleur ? C'était ça ma question. Mm. Est-ce que c'est meilleur ? Est-ce que le produit va être de meilleure qualité ? Moi, je voulais que ce soit ça,
la promesse.
Le premier élément qui me pousse à le faire. Oui. J'ai pas toujours été convaincu par ça. Parfois, j'ai même senti qu'il y avait un petit peu d'arnaque derrière le fameux label bio où on te mettait un tampon bio, mais si on regardait derrière, qu'est-ce que ça voulait dire ? Parce que ça veut dire plein de choses, bio. C'est produit à côté de chez toi, ça veut dire que tu manges pas le légume quand t'es pas dans la saison, t'achètes pas le fruit, t'achètes pas une cerise au mois de décembre. Tout ça, c'est une démarche aussi, le bio. Ça n'est pas simplement ce que tu consommes, c'est toute une démarche. Donc, la démarche me plaît. C'est-à-dire, aller acheter des cerises au mois de décembre, je trouve ça con. Mmh. Enfin, j'ai bien pris conscience que c'était pas bien, je le fais pas. Mmh. Maintenant, parfois, est-ce qu'en plein mois de juin, effectivement, l'acheter au supermarché ou l'acheter dans une ancienne bio, j'ai envie de savoir si c'est meilleur, j'ai envie de goûter. J'ai envie de goûter d'abord.
Péricot, bon, critique culinaire, Péricot, toi qui es passionné par ça, par la cuisine, par l'alimentation, la gastronomie en général, est-ce que tu comprends cette désaffection, elle est peut-être temporaire, j'en sais rien, pour le bio en France ?
La comprendre, non, mais l'expliquer, oui, il n'y a aucun problème. Je rappelle que le bio n'est pas une tendance ou une mode ou un caprice. C'est une nécessité vitale pour que l'humanité puisse continuer à cohabiter sur cette planète. Voilà. Alors, on l'appelle bio. C'est vrai qu'il y a peut-être une tendance aujourd'hui avec bio-bobo, voilà. On va dire du propre, du durable, respectueux de l'environnement. Et je rappelle que le bio n'est pas un critère qualitatif. C'est un critère de propreté. C'est une agriculture qui n'abîme pas la planète et qui n'empoisonne pas l'organisme. Rien d'extraordinaire. C'était ce que les êtres humains mangeaient jusqu'à qu'on industrialise l'agriculture.
Tu sais, ça me fait sourire ce que tu dis, parce que je suis...
Il y a tout le temps eu du bio.
J'ai eu la chance d'aller en septembre dernier en Corse. Et en Corse, tu sais que le bio est très développé. Et lorsque j'ai discuté avec un agriculteur du coin, il m'a dit mais c'est bien, je vois qu'il y a beaucoup de bio dans le coin. Il fait mais le gars, il m'a dit on a toujours fait du bio.
C'est-à-dire qu'on, oui, mais Péricot,
Et je termine juste. Il m'a dit en fait on ne fait que faire ce qu'on a toujours fait.
Mais bien sûr, bien sûr.
Oui, mais alors, pardonne mon ignorance, Péricot, mais j'ai mon jardin, j'ai mes arbres fruitiers. Si je les cueille et tout, je
ne traite pas.
Ah oui, mais si je mets du produit dessus, parce que je veux pas que les oiseaux viennent bouffer mes figues.
Bah, t'es pas bio.
C'est plus bio. Mais...
Bah oui, mais sauf que je peux pas, parce que sinon.
Tu manges tes fruits, tu les cueilles à l'arbre, et puis il y a un peu de perte pour les oiseaux, oui, d'accord. Tu n'en vis pas. Le problème, c'est quand il faut rentabiliser une activité agricole de fruits, et qu'on n'a plus les intrants pour le faire. Donc le bio, c'est plus de travail physique de la personne humaine, plus de respect des sols.
Dès que tu mets un produit, c'est mort.
Non, mais surtout la solution. Là, pourquoi il est en recul ? Parce que notre système économique et agricole fait que la promotion est au low cost, au prix le plus bas. Et bien, quand on donnera les milliards, les dizaines de milliards d'euros de subventions subventions européennes à cette agriculture industrielle qui nous empoisonne et qui lui au lieu de donner ces milliards à ces milliardaires qui roulent en Mercedes, qui ont des hectares de céréales dans l'Est et dans le Nord, qu'on les donnera aux producteurs bio pour nourrir les Français et respecter la planète, tout va s'inverser. Mais aujourd'hui, on fait tout pour que le bio crève. Et ils sont en train de réussir. Mais je pense qu'il y aura une réaction du consommateur qui inversera cette tendance satanique.
Christelle Vendroux, toujours à côté de nous, créatrice de l'atelier Honoré, producteur de moutarde bio dans l'Oise. Vous souscrivez évidemment à ce que dit Perico.
Complètement. Alors après, c'est vrai que les rendements, nous, quand on a contractualisé avec notre agriculteur, on a contractualisé sur un hectare. Et bon, nous, on démarrait l'activité, donc ce n'était pas un problème. Mais un rendement, un hectare, ça pouvait être 700 kilos de moutarde, comme 1,5 tonne. Donc voilà, les rendements, évidemment, quand on ne traite pas, sont différents.
Tout de suite, on va au 32-16. On vous pose cette question. Le bio a-t-il encore un avenir dans notre pays? C'est la crise en ce moment, on l'entend.
Tout à fait.
Crise de la filière agricole bio dans notre pays. Et on vous pose la question donc au 32-16. On rejoint Irvine tout de suite. Bonjour Irvine.
Bonjour.
Bienvenue dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Irvine, vous savez de quoi vous parlez puisque vous êtes vigneron bio.
C'est ça. Je bosse dans l'entreprise.
Vous êtes dans quel coin, bio. Irvine?
Je suis à Vertou, au sud de Nantes. Dans les vignes.
D'accord. Vous avez toujours fait du bio?
Ben en fait, moi, je suis arrivé parce que j'ai un ami qui a repris une expression familiale et qui avait besoin de personnel pour développer justement ce côté bio. Donc, il m'a convaincu. Moi, je ne faisais pas du tout ça à la base. Puis, du coup, je suis venu bosser avec lui.
D'accord. Est-ce que vous souffrez en ce moment?
Bah ben non, pas trop, en fait. Parce que, du coup, quand on produit... Sur le vin, quand on produit mieux, on produit moins. Mais, du coup, on a d'autres débouchés parce que la qualité va avec. Le bio dans la vigne, c'est retour à la base, en fait. Et du coup, la qualité se ressent forcément.
Perico, je te voyais réagir. Tu me dis que le vin...
Oui, non. Le vin, l'agriculture, la viticulture biologique est la destinée normale d'une viticulture respectueuse de l'environnement. Étant entendu, je le précise, que l'agrochimie et les produits phytosanitaires ont fait aussi beaucoup de progrès par rapport à ce que ça a été. Malgré tout, et il y a une évolution certaine, ensuite il y a des endroits où on ne peut pas encore se passer totalement de produits phytosanitaires, des endroits où on peut s'en passer et les utiliser à moindre mesure avec une régulation et une harmonie qui est conforme à ce que la nature a besoin, et surtout nos besoins. Mais tout ça, ça rentre dans une philosophie. En tout cas, le vin bio aujourd'hui est en plein essor et je le crois relativement épargné par le désamour que subit le bio alimentaire sur d'autres gammes de produits.
Irvine Vigneron bio qui était avec nous au sud de Nantes. Sylvain nous rejoint au 32-16. Bonjour Sylvain.
Oui, bonjour.
On est dans la Somme cette fois.
Eh ben, tout à fait, notre belle région.
On retourne dans les Hauts-de-France. On retourne dans les Hauts-de-France, du côté d'Amiens. Très bien. Vous faites quoi dans la vie, Sylvain?
Alors, je suis commercial dans la pièce automobile.
D'accord, donc rien à voir avec le bio.
Non.
À ma connaissance, il n'y a pas encore de voiture bio. Hein, et je pense que ça viendra un jour.
Pas encore.
Le carburant peut être bio.
Le carburant.
Je suis très content d'arriver sur votre antenne et surtout un jour où M. Riolo est là, car c'est une personne que j'estime beaucoup et je suis de nombreuses fois d'accord avec lui sur tout sujet, que ce soit actualité et sportif.
Très gentil, merci beaucoup.
C'est très gentil.
Il reviendrait du coup.
Il apprécie. Sylvain, donc, est-ce que vous achetez du bio?
En fait, c'est ce que j'expliquais. Alors non, moi je n'achète pas de bio et c'est ce que j'expliquais en fait aux standardistes. Moi, je suis Alex. Tout ça un petit peu de l'extérieur et en fait, donc j'habite dans les Hauts-de-France, donc je me balade dans notre belle campagne, tout ça. Et en fait,
la plus belle campagne qu'il existe.
Exactement. Et je trouve qu'avec le bio, en fait, on a grillé une étape. C'est-à-dire, je m'explique, aujourd'hui, on se rend compte que nos agriculteurs, tout ça, on n'a déjà pas assez de ressources, en fait, pour nourrir, en fait, toute la terre. Et moi, je me dis, je prends un point de vue très simple, je me dis qu'il faudra que ça commence par nous, en fait, consommateurs, de retourner, en fait, chez l'épicier du coin, aller chercher notre poulet à la ferme d'à côté, aller chercher nos légumes chez le primeur, tout ça. Dans un premier temps, en fait, il va falloir commencer par faire travailler vraiment nos agriculteurs du coin pour leur redonner, en fait, des ressources supplémentaires. Et avec ces ressources-là, par la suite, en fait, on pourra passer au bio. Moi, c'est mon point de vue.
Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, Sylvain, c'est qu'il n'y a pas plus tard qu'il y a deux jours, ou non, la semaine dernière, peu importe, Famille Rurale, je crois que c'est Famille Rurale, tu vérifieras, Alfred, si tu veux bien. Famille Rurale a publié une étude sur l'inflation alimentaire. Famille Rurale qui milite pour que le gouvernement donne accès à des produits sains aux plus modestes. Et elle pointait du doigt le fait que l'inflation dans l'alimentaire, pour les produits industriels, c'est plus 10, 11, 12%, je ne sais plus. Et pour les produits qu'on estime sains, que Famille Rurale a classés comme tels, alors pas forcément bio, mais c'est des fruits, légumes de saison, l'inflation n'est que 2-8%.
Ah bah oui.
Alors oui, ils sont un peu plus chers à la base, peut-être, parfois, pas toujours d'ailleurs,
oui.
Mais l'écart se réduit, et parfois, effectivement, en devenant acteur de sa consommation, on peut faire des choix qui sont tout à fait pertinents pour sa santé et pertinents aussi pour le portefeuille.
Oui.
Christelle Vondroux, productrice de moutarde bio. Non.
Oui, bah moi je suis d'accord avec vous. Hein. En effet, c'est un choix. C'est un choix de mieux consommer, d'avoir un produit plus naturel. Et par contre, pour être passée du statut de consommatrice bio au statut de transformatrice bio, je sais par contre qu'il y a un vrai contrôle. Nous, on a déjà été audité 2 fois en 5 mois. Et il y a un vrai contrôle sur tout ce qu'on fait rentrer comme produit, où on les achète, une vraie traçabilité et un contrôle de nos analyses alimentaires également. Donc, par contre, voilà, il y a une vraie sécurité. Voilà.
On mange beaucoup mieux aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans, du coup. Avec tous ces contrôles et avec le développement de ces filières.
Sauf que tout le monde n'est pas dans le bio. Hein.
Oui,
tout le monde n'achète pas bio.
C'est vrai et c'est pas vrai. Il n'y a jamais eu autant de malbouffe nocive vendue sur le marché. Mais en même temps, cette malbouffe n'est pas aussi...
Alors, ce n'est pas comme ça que j'aurais dû le dire. J'aurais dû dire, on a la possibilité de...
Oui. Comme jamais.
Il faut mettre...
Comme jamais.
OK. Et voilà, c'est même ça. Si parfois, il faut le dire...
Faut pas encenser la nourriture autrefois. Non,
et même si parfois, Péricot, il faut le dire, il faut mettre le prix aussi.
Ah, mais clairement.
Voilà. Ça, c'est, il faut faire des arbitrages.
Il faut le dire aussi. Et c'est pour ça qu'à la question initiale de les enseignes qui ferment, évidemment, dans une période de fort d'achat qui baisse, les gens, ils l'ont pas mis en priorité d'aller au Biocop.
Ce qu'il faut dire aussi, Daniel, c'est qu'auparavant, dans le budget alimentation d'un ménage, il y a encore de ça 30 ou 40 ans, c'était 40% du budget familial consacré à l'alimentation.
Ça a beaucoup baissé. Maintenant, c'est les téléphones et Netflix.
Non, mais tu as raison. Aujourd'hui, on est à 20. Et je pointe du doigt personne.
Au moins que ça, même.
Aujourd'hui, c'est moins de 20%. Et effectivement, par contre.
Entre le téléphone budget, et aller manger au McDo, le choix est vite fait.
Hein. Exactement. Donc, ce sont des arbitrages qui sont à faire pour revenir à des choses
essentielles. C'est un petit peu normal aussi, vu l'inflation.
Non. Je te parle de la part de l'argent dépensé.
Absolument, mais. Et de l'alimentation saine aussi. Quand on voit que les œufs, par exemple, ont augmenté de 30%, forcément, peut-être qu'on va en acheter moins, peut-être qu'on va acheter autre chose, ou on va acheter de la malbouffe.
Sauf que tes œufs, ils ont augmenté de 30%, c'est sûr et certain, dans la grande distribution. Oui. Par contre, sur le marché, quand il va le samedi matin, je ne suis pas sûr qu'ils aient pris 30%.
Mais non,
ils ont pris, mais pas 30%.
Ils n'ont pas eu besoin.
Mais le différentiel,
mais ils ne sont pas accessibles à tout le monde.
Les produits bio restent en moyenne 30% plus chers que les produits de
certains. Mais pourquoi? Parce qu'ils jouent dans une concurrence déloyale. Quand l'agro-industrie importe des cochons, du jambon dégueulasse, il est forcément moins cher que le jambon bio. On n'a qu'à taxer ce jambon empoisonneur qui, en plus, fait des trous dans le compte de la sécu.
Qui c'est du jambon empoisonné?
Il y en a beaucoup, hein.
Ah, je pensais que tu avais dit un nom que j'avais pas
entendu. Non, je n'ai pas donné de marque. Parce que si c'est ça, tu serais bien de payer le procès avec moi. C'est pour ça.
Enfin, innocent, c'est que j'ai entendu.
La malbouffe, elle coûte cher. Elle coûte très, très cher en effet secondaire.
Contrairement à ce qu'on pense.
Elle est importée de pays pour lesquels on a délocalisé des activités ou ruiné des agriculteurs, et maintenant on dit ah mais oui c'est le bio est trop cher. Non, c'est l'autre qui est injustement pas assez cher et qui fait que le bio devient cher.
Merci à Sylvain d'avoir été avec nous. Sylvain qui nous appelait depuis le département de la Somme. On est au 32-16 cette fois. J'ai plus le prénom en tête, on me l'avait dit. Benjamin, pardon. Bonjour Benjamin.
Bonjour.
Bienvenue dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Merci. Benjamin, vous êtes producteur de pommes de terre. Écoute
non,
bien, Perico.
Non, de pommes bio.
Ah, de pommes bio et de châtaignes bio dans la Drôme.
Oh là là.
Les châtaignes.
Comment peut-on avoir des châtaignes non bio?
Pardon?
Comment peut-on avoir des châtaignes non bio?
Eh ben, il va te l'expliquer. Bah, à mon avis, on les traite, les châtaignes aussi.
Quelque chose.
On peut les traiter, les châtaignes, non?
Ah, pourtant, elles ont une bonne couverture, vous en avez traité.
Benjamin.
Il y a très, très peu de ravageurs, donc c'est facile à passer en bio, ça c'est sûr. Effectivement. Mais c'est logique d'être en bio en châtaigne. bien sûr.
Bon, on a entendu ces dernières
leçons de fête.
On a entendu ces derniers jours la colère de vos collègues producteurs bio qui se disent abandonnés par l'État, par la grande distribution aussi. On voit hein, les rayons se réduisent comme peau de chagrin, les rayons bio dans les supermarchés. Est-ce que vous-même vous êtes inquiet pour votre filière?
Ouais, bien sûr. En pomme bio. Depuis un petit moment, on commençait à se dire que la Pologne allait arriver sur le marché français, ils allaient monter de pommes bio ou pas bio à très peu cher. Donc voilà, c'est arrivé. Donc là, en ce moment, les stocks sont pleins, les frigos sont pleins. Ça ne part plus. Le bio sera certainement vendu en conventionnel, donc ça veut dire payé en conventionnel. On est dans une impasse actuellement, hein, on est dans une impasse.
Vous vous êtes converti il y a combien de temps ou alors vous avez créé votre exploitation?
Moi je me suis installé il y a 6 ans et j'ai
bio tout de suite.
Mes pommes sont en bio depuis 5 ans, voilà.
D'accord.
Et après j'ai une autre partie en conventionnel avec des fruits à noyaux, pêches, abricots, cerises, voilà, qui sont en conventionnel.
Avant-hier, on en parlait avec Alfred Orange. Je sais qu'il y a un certain nombre d'exploitations agricoles, d'exploitants qui aujourd'hui se reviennent au conventionnel, qui s'étaient fait bio, mais
se déconvertissent.
Voilà. Se déconvertissent, c'est ça. Merci Alfred. Et est-ce que vous y pensez?
Ben franchement, moi j'y pense, parce que tout à l'heure Perico disait que produire des pommes bio c'était bon pour la planète, bon pour le corps, bon pour tout ça. En fait. Nous, on a acheté des machines pour gratter la terre pour plus désherber. On passe 6, 7, 8 fois. On passe des produits bio, on va dire pas de synthèse. On passe peut-être 30% de plus en passage, hein, je passe, en pulvérisation que du conventionnel. Donc on passe 15, 20 fois avec des produits bio et on passe quand même 15, 20 fois, quoi. Donc en fait, au final.
D'où le prix élevé des produits, hein, notamment.
Exactement. Exactement.
Ah, et le temps, c'est.
Ouais. Donc en fait on passe. Donc c'est bon peut-être pour la santé humaine, on va dire meilleur, quoique je suis pas sûr. Mais par contre pour la planète, je pense pas. Parce que.
Mais au départ, Benjamin, oui. Votre démarche, il y avait une démarche, c'est pas pour rien si vous êtes dit je vais lancer dans le bio.
Non, ben, c'est un terme, pour ma part à moi, c'était un terme de une ouverture de marché où la pomme bio partait beaucoup plus économiquement, c'était beaucoup plus rentable que de la pomme conventionnelle. Voilà.
Et autour de vous, j'imagine que vous connaissez d'autres exploitants qui
bien
sont
sûr.
En bio, comme vous.
Oui, oui.
Qu'est-ce qu'ils vous disent?
Ah bon, on est tous inquiets. Hein. Déjà, on est inquiets pour le marché conventionnel dans les autres fruits, noyaux. Voilà, déjà, on est inquiets pour ça. Et on est inquiets pour la pomme, poire, un poire un petit peu moins, mais surtout la pomme, où les stocks sont. C'est la première année où on voit début mars des frigos pleins de pommes, quoi. Et on se dit, mais comment on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Où ça va aller tout ça? Voilà. Et quand on voit les prix en plus, en grande surface, à 3€ la pomme, 4€ de la pomme, on se dit que c'est pas possible, quoi. C'est inadmissible. Voilà.
Perico,
c'est sûr que si l'Union européenne et la Commission autorisent l'importation de pommes polonaises pourries de pesticides, hein, qui est du cancer concentré, et si c'est pour éradiquer la filière de pommes bio françaises, le problème va être vite réglé. Hein.
Merci à Benjamin.
Et souvent, c'est ça le problème.
Merci à Benjamin d'avoir été avec nous au 32-16 depuis la Drôme. Un dernier mot, Christelle Vendroux, créatrice de l'atelier Honoré, producteur de moutarde dans l'Oise, et vous travaillez avec un producteur de graines de moutarde bio au nord de la Somme. Vous restez optimiste malgré tout, vous nous le disiez tout à l'heure.
Tout à fait. Voilà, oui, moi j'étais convaincue, bio-convaincue, je pense que voilà, ça fait partie de notre responsabilité à tous. Et nous, on n'envisageait pas un autre engagement que de partir sur la filière bio.
On reprendra le bâton du pèlerin pour prêcher la bonne parole. Et puis les masses un peu abruties par Hanouna et Nutella finiront forcément par nous écouter.
En tout cas, ça rime. On vous a posé la question, le bio a-t-il encore un avenir dans notre pays? La réponse, Alfred.
Vous répondez non à 59%, oui à 41%. Je finis avec un message d'Eli qui dit, si les prix s'alignent sur l'agriculture traditionnelle, peut-être, en attendant, c'est devenu inabordable.
Merci, Alfred. Jeannot Séguier, qu'est-ce qu'il vient faire ici?
Eh ben, je pense que c'est l'heure de jouer. C'est l'heure de jouer pour gagner vos places pour le Bayern Munich PSG avec toute l'équipe d'RMC. Vous avez 5 minutes pour jouer au 7-32-16. Envoyez vos SMS dès maintenant sur RMC.
Merci Alfred. Dans un instant, RMC s'engage pour vous. La galère des propriétaires de maisons endommagées par la sécheresse. Il y en aura de plus en plus.
Donc,
c'est une vraie question. Allez, on se retrouve dans un instant. C'est Estelle Midi sur RMC, RMC Story. À tout de suite.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Rémi Barré.
Estelle Midi, tous les jours, midi 15h sur RMC, RMC Story, le canal 23 de la TNT. Nous sommes toujours en direct du stand de la région Hauts-de-France depuis le salon de l'agriculture Porte de Versailles à Paris. Et tout de suite, comme tous les jours à cette heure-là, RMC s'engage pour vous.
RMC, Estelle Midi.
RMC s'engage pour vous.
Et Johanna Chabas nous a rejoint. Bonjour Johanna.
Bonjour.
On vous en a beaucoup parlé ces derniers jours sur RMC. La sécheresse fait des dégâts et même de gros dégâts. Ce n'est que le début parce que ça promet rien de bon pour cet été. Et les assurances ne suivent pas toujours, Johanna.
Mais est-ce que vous saviez que parmi ces dégâts, la sécheresse, elle abîme nos maisons. En France, la moitié d'entre elles sont situées dans des zones à risque. Je m'explique. Dans un sol argileux, la sécheresse provoque des mouvements de terrain qui fissurent petit à petit nos constructions. C'est le cas de la maison d'Emma en région parisienne où elle a élevé ses enfants. Cette pharmacienne nous a écrit à l'adresse rmcpourvous@rmc.fr car depuis près de 4 ans, elle ne parvient pas à se faire indemniser par son assurance, Allianz. Et en attendant, la situation se dégrade.
Il y a des fissures partout. Il y a des endroits où on peut rentrer la main. Il y a une baie vitrée qui a menacé de s'effondrer. C'est-à-dire que là, déjà, quand il pleut, j'ai de l'eau qui rentre dans la maison. Tous les jours, je regarde en été, je tremble. Je me sens mal, ça m'angoisse. À chaque fois que je vois les fissures qui s'agrandissent, je me dis, ça va s'arrêter où? Il va se passer quoi? Enfin, cette année, au mois d'août, je ne sais pas ce que ça va donner. Ça me fait peur.
On se sent mal, on la comprend.
Ah ben non, mais c'est absolument dingue. Et sa commune, Villemomble, en Seine-Saint-Denis, a été reconnue en état de catastrophe naturelle en 2019. Un prérequis pour demander une quelconque indemnisation. Emma dépose son dossier, son assurance mandate un expert, montant des travaux estimés 180 000 euros.
Oh là.
Et après près de 4 ans d'attente, l'assurance a fini par proposer une indemnisation. Hasard du calendrier, c'était au lendemain de notre tournage. On l'a tout de même contactée.
Ça fait 4 ans qu'elle attendait là.
Oui, 4 ans qu'elle attendait. Absolument. Et sans forcément de nouvelles, elle relançait, on ne lui répondait pas, on lui disait d'attendre, elle ne savait pas où en était son dossier. Donc on a demandé à l'assurance pourquoi ça avait pris autant de temps, pourquoi près de 4 ans. On nous répond que c'est à cause du Covid, le classique.
Le bon Covid.
Voilà. Du coup, la difficulté de trouver des artisans à cause du Covid.
Ouais.
Évidemment, des délais pour traiter le dossier. Et puis aussi, les experts ont été un petit peu lents pour rendre leurs conclusions.
Bon, là, c'est un dossier qui est particulièrement long, celui-là, mais est-ce que c'est toujours aussi compliqué?
Alors, ça peut prendre légèrement moins de temps, mais dans tous les cas, c'est la croix et la bannière, c'est ce que nous disent toutes les associations spécialisées. Et selon un rapport du Sénat présenté en février dernier, seulement un sinistre sur 4 est indemnisé. Déjà parce que toutes les communes qui le demandent ne sont pas reconnues en état de catastrophe naturelle. Et même dans celles qui le sont, seule la moitié des dossiers déposés donnent lieu à une indemnisation. Mohamed Benaya est le président de l'association Urgence Maison Fissurée. Il appelle à une simplification des démarches.
Si on fait ça le plus vite possible, ça va coûter beaucoup, beaucoup moins cher et on limite les dégâts et puis voilà, tout va bien. Mais sauf qu'on ne veut pas faire ça, on veut faire quelque chose de très compliqué en essayant de noyer le poisson, sachant que ce poisson-là ne sera pas noyé. Ça craint beaucoup parce que si on part sur les mêmes bases que la sécheresse 2022 en 2023, je crains que ça va être terrible.
2022, c'est une année record, hein, Johanna.
Absolument. L'indemnisation pour ce type de sinistre a dépassé les 2,5 milliards d'euros.
Et que fait l'État, Johanna?
Alors, nous avons contacté le ministère des Finances. Il semble conscient du problème. Il prévoit notamment d'assouplir les critères pour la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. L'objectif, c'est d'augmenter d'environ 15% le nombre de communes éligibles. Et pour accélérer les procédures, le gouvernement a fixé aux assurances des délais à ne pas dépasser. La députée Sandrine Rousseau veut elle aussi changer les règles. Elle a déposé une proposition de loi qui sera étudiée le mois prochain.
Merci beaucoup Johanna. Évidemment, on continuera à suivre ce dossier parce qu'on n'en est qu'au début. On le sait, là,
on en a parlé. 2023, ça va être compliqué et que ça risque de vraiment être de pire en pire.
On en a parlé hier dans Estelle Midi, la sécheresse, sachant que le ministre de l'écologie nous dit que tous les voyants sont au rouge. Nous sommes le 1er mars et ça risque de s'annoncer très, très compliqué pour les beaux jours, le printemps et bien sûr pour cet été. Merci Johanna. Tiens, on rappelle juste l'adresse si on veut vous écrire pour...
rmcpourvous@rmc.fr.
Je dis vous, je te tutoie, Johanna, mais je dis vous parce que tu n'es pas seule, il y a toute une équipe derrière.
Absolument.
RMC s'engage pour vous. Merci Johanna et on se retrouve demain, même heure, tout même endroit, depuis le stand de la région Hauts-de-France au Salon de l'Agriculture à Paris. C'est le pavillon 3. Dans un instant, comme tous les jours à cette heure-là, c'est quoi? Eh bien, ce sont les immanquables d'Alfred Orange. Orange, pardon. À tout de suite dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, le canal 23 de la TNT.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Rémi Barré.
Estelle Midi, comme tous les jours, midi 15h sur RMC et sur RMC Story. C'est le canal 23 de la TNT. Nous sommes toujours en direct du stand de la région Hauts-de-France depuis le salon de l'agriculture Porte de Versailles à Paris. Dans un instant, les immanquables d'Alfred Orange. Mais Alfred, tiens, on jouait et on a un gagnant à côté de nous.
On a trouvé un gagnant pour le remercier d'avoir patienté, de nous avoir regardé. On va vous offrir un panier garni rempli de produits régionaux offerts par Saveur en Or et Terroir.
Ce gagnant, c'est Jean-Jacques qui est à côté de moi.
Jean-Jacques qui est en face de nous. Et Jean-Jacques, pour vous, vous allez gagner des gaufres, de la biscuiterie Bourdon, du pâté de la chicorée de Le Pâtureur. Et bien sûr aussi à boire de la limonade à la Violette de Lagos et puis du poulet de Lick au maroilles. Je ne sais pas si vous connaissez toutes ces spécialités, en tout cas.
Vous venez d'où,
Jean-Jacques? Partez avec.
Vous venez d'où?
Je viens de Tarbes.
Bon, oui, Tarbes, c'est pas tout à fait les Hauts-de-France.
Pour les gaufres, il faudra lui trouver un autre paquet, parce que je savais pas, je l'ai piqué le paquet.
Il y a un autre paquet.
Donnez-lui un autre paquet. Je suis désolé, j'ai ouvert votre paquet, monsieur. Il m'avait pas prévenu que c'était dans le paquet cadeau.
On va s'arranger, en tout cas. Vous découvrirez les produits des Hauts-de-France et on est content pour vous. Merci Jean-Jacques d'avoir été avec nous.
Elles sont bonnes, si ça peut vous rassurer, elles sont super bonnes.
Très bien.
Ah, c'était un beau cadeau.
Merci. Belle journée à vous, Jean-Jacques, et bon salon à vous. Allez, tout de suite, les immanquables d'Alfred Orange.
RMC, Estelle Midi.
Les immanquables.
Alfred, on commence avec le mythe du jour.
Juste Fontaine, légende du foot français, nous a quitté ce matin à 89 ans. Recordman de buts marqués dans une seule Coupe du Monde, c'était en Suède en 1958. Personne n'a jamais fait mieux depuis. Il a aussi été l'entraîneur du PSG dans les années 70. Et ce sera à jamais le premier à avoir fait monter le PSG en première division. C'était en 1974.
Bon, Daniel, je me tourne vers toi. C'est pas ta génération, c'est pas la mienne, mais Juste Fontaine.
Ah oui, mais il est dans les livres d'histoire que tout passionné de foot a eu dans les mains à un moment, pour savoir qu'effectivement cette génération de 58, c'était la première qui a passionné les Français. Bon, alors rien de comparable avec aujourd'hui, hein, c'était derrière le poste de radio.
Une autre époque, un autre football aussi.
Mais c'était effectivement c'est plutôt l'équipe des grands-parents là, pour le coup, de notre génération. Mais Raymond Coppa, Juste Fontaine, c'était les leaders de cette équipe-là. Et surtout, lui, il est resté encore plus dans l'histoire parce qu'il a ce fameux record. À chaque fois, on entendait 13 buts dans une Coupe du Monde, 13 buts dans une Coupe du Monde. C'est un record, ça ne sera jamais battu, jamais battu. Et c'est vrai que 13 buts dans une Coupe du Monde, ça ne sera probablement jamais battu. Et tout le monde le connaissait, c'était un peu une figure populaire française, Juste Fontaine. En plus, il y avait un nom particulier. Juste, c'est pas un prénom commun. Ouais. Et puis Fontaine, enfin, je sais pas, il y avait une sorte de petite magie dans son nom. Et puis c'était un personnage assez drôle en plus quand il racontait des histoires. Et puis moi, à titre perso, je le connais parce que j'avais écrit un livre sur l'histoire du PSG et je l'avais rencontré.
T'avais l'occasion de le rencontrer?
Oui, et donc il m'avait raconté parce que ça avait été l'entraîneur du premier PSG qui est monté en Ligue 1.
Il était comment quand même?
Bah, comme ça, très truculent, toujours à blaguer, très simple comme personne, et évidemment très sympathique. Mais qui pouvait y aller des fois, mettre des petits tacles sur les gens. Enfin, vraiment un vrai personnage, quoi.
Perico.
Ça nous rappelle surtout que ce sport populaire a été à un moment donné tout à fait autre chose de ce qu'il est devenu avec le système Le Graët et autres. Voilà. Alors, je ne dis pas qu'il n'y avait pas du tout de corruption et pas du tout de contournement, mais ce n'était pas dans les proportions industrielles où c'est devenu.
C'était une autre époque.
Ah, c'était un autre état d'esprit, d'autres valeurs. Mieux avant peut-être, non, je ne sais pas.
Bon. Allez, on passe à la piqûre du jour.
Elle va concerner tous les élèves de 5e. Tous les collégiens qui se porteront volontaires seront vaccinés gratuitement contre le papillomavirus, responsable chaque année de plus de 6000 nouveaux cas de cancer. Ça commencera à la rentrée prochaine. Et si Emmanuel Macron lance cette vaste campagne, c'est parce que la France est en retard. Seuls 37% des filles et 9% des garçons sont vaccinés contre le papillomavirus. Vacciner à cet âge, ça permet surtout de prévenir et pratiquement d'éradiquer des risques de cancer contre le col de l'utérus notamment.
Perico, hier j'ai entendu Emmanuel Macron qui a présenté cette mesure, qui disait notamment on a tiré les conséquences, les leçons de la crise Covid avec la vaccination obligatoire, ça marche. Moi j'ai vu qu'en Australie, le cancer de l'utérus dû au papillomavirus était quasiment éliminé. Il n'y a plus que 1% de cas. Parce qu'ils vaccinent, ils ont été précurseurs dans le domaine, ils vaccinent massivement les enfants. Alors on risque bien sûr une nouvelle fois de relancer le débat sur la vaccination obligatoire et tout, mais qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette mesure?
Non, mais c'est surtout un événement sanitaire et médical majeur dans l'histoire de l'humanité, c'est la première fois qu'on vaccine contre un cancer. Alors, le papillomavirus n'est pas le cancer lui-même, il est le virus qui l'engendre. Mais le fait qu'on puisse aujourd'hui prétendre qu'il y a un vaccin qui permet d'éviter d'avoir un cancer est une conquête médicale absolument gigantesque. En plus, c'est un cancer très particulier sur des pratiques sexuelles très particulières. Mais bon, la libido, c'est la libido, la sexualité, c'est l'excès. Les jeunes sont exposés à ce risque. Et de savoir que dès la cinquième, on peut se vacciner et de façon à ne pas déclencher, pas engendrer un cancer de cette parce qu'il y a eu des drames, hein, voilà, c'est pas un gentil, il n'y a pas de gentil cancer, celui-là n'est pas du tout, et savoir qu'on peut s'en préserver et faire de la prévention carcinomateuse en oncologie est un événement politique. Je trouve que ça passe assez discrètement. On a assez de mauvaises nouvelles aujourd'hui pour pouvoir se dire que voilà, après l'ARN qui fut une révolution médicale, eh bien le vaccin contre le papillomavirus est une conquête médicale exceptionnelle.
Yael Mellul.
Alors moi je serais un peu moins enthousiaste que toi, parce que même si incontestablement ça a l'air d'être une avancée considérable, il n'en demeure pas moins qu'on n'a pas encore beaucoup de recul sur ce vaccin.
Bien sûr.
Et j'aimerais quand même qu'on ait. Attention, je ne suis plus, pas du
on
tout
anti-vaccin. On en avait parlé plus sur le Covid.
On a recul sur ce vaccin-là depuis 15 ans. L'Australie a déjà fait deux.
Oui, mais c'est pas assez 15 ans en fait. Parce que le cancer. Si les gamines et les gamins sont vaccinés vers 11-12 ans. Et les cancers peuvent se.
On attend quoi alors?
Alors, peuvent se révéler à 40 ou 50 ans.
15 ans, c'est pas assez. On attend 20 ans, 30 ans, 40 ans.
Non, mais je dis simplement. Simplement que moi j'aimerais qu'on ait davantage. Il y a une campagne aujourd'hui, voilà, on en parle. Emmanuel Macron a fait cette annonce. Et qu'on fasse dans le même temps une campagne d'information sur les effets secondaires aussi. Parce qu'on en a. Ils sont connus. Voilà. Il y a des effets secondaires. Il y a eu des cas graves.
Qui sont sans commune mesure avec les bénéfices.
Oui, enfin les bénéfices aujourd'hui.
Il y a aussi des gens qui sont tombés malades avec le vaccin du Covid. Hein, bon.
Oui, ah bah absolument. Mais on peut aussi faire confiance aux gens pour en ayant une parfaite information d'un vaccin pour prendre une décision.
Ah non, mais on est d'accord.
D'accord. Enfin, voilà.
On
a aussi notre libre arbitre, nos capacités de discernement, nos capacités de jugement. Bon, voilà, je demande.
Bon, moi, je fais quoi avec mon ado alors?
Alors, ah bah ça,
parce que c'est la question que plein de gens se posent.
Absolument.
C'est,
tu vas voir ton médecin de famille, discutes avec lui et tu vois ce qu'il te dit de faire.
Tu l'éduques sexuellement pour qu'il ne prenne pas de risques, donc qu'il ne touche.
Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a quelque chose de très important à faire, qui est fondamental, c'est d'aller voir pour les gamines la gynéco régulièrement et faire des frottis.
Absolument.
Voilà, ça c'est très important aussi. Voilà.
Et au moins, on parle du sujet et c'est vrai que.
Absolument.
Ça va de soi.
Ah oui,
ça va de
soi. C'est important. Allez, on passe à l'alerte du jour.
Elle est signée du professeur Yves Ville. Ce médecin a remis hier un rapport choc à l'Académie de médecine. Il préconise le regroupement de 100 maternités en France, faute de personnel suffisant. En gros, toutes celles qui mettent au monde moins de 1000 bébés par an sont sur la sellette. Des villes comme Guingamp, Sedan ou Porto Vecchio pourraient à terme se retrouver sans maternité, parce que le risque, d'après ce professeur, c'est un risque pour l'enfant et la maman. Ils courent des risques dans ces petites structures plus assez équipées et surtout plus assez habitué à accompagner des accouchements.
Perico.
Moi je veux bien, mais les mères de famille qui ont un accouchement qui existe de l'urgence, qu'est-ce qu'on fait? Ce débat existe depuis 30 ans. Est-ce qu'il faut fermer ou pas? Est-ce qu'on ne peut pas résoudre le problème dans l'autre sens, faire en sorte que cette maternité ait aujourd'hui les moyens suffisants pour être sûre et fiable? Tu ne peux pas priver une population. C'est comme une gare, il n'y a plus de gare, bon ben vous irez prendre le train ailleurs, là il n'y a plus de maternité, ben vous irez accoucher ailleurs. Voilà, ce raisonnement de scientifique m'a toujours choqué. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai, mais je pense qu'il y a d'autres solutions que de regrouper et de fermer. Voilà, on ne prive pas un territoire d'une maternité.
J'imagine que c'est la solution de facilité.
De rentabilité,
absolument. L'éloignement géographique des femmes enceintes, on en parle, comment elles vont faire? Pour faire je ne sais pas combien de kilomètres pour accoucher. Ben, je veux dire, ça ne relève pas du bon sens, on va dire, cette
attention avec le bon sens. Ouais.
L'accouchement et le suivi obstétrique.
Absolument.
Daniel, qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, moi, j'ai un peu l'impression que ce que nous dit ce professeur, Yves Ville, c'est que quoi qu'il en soit, il a conscience que l'État ne mettra pas les moyens est-ce qu'il en a les moyens, justement, financiers, de mettre le paquet sur ces petites maternités? C'est, il constate.
Mais la question, elle est
toute là.
Il constate, est-ce qu'on peut apporter une solution à la situation?
Lui, il constate qu'on ne le veut pas visiblement et que laisser des petites structures sous-équipées, c'est dangereux.
C'est terrible.
Mais tu viens de répondre à ma place.
Bon, on va passer à autre chose.
Non, mais ce qui est sur la table, c'est notamment de payer des chambres d'hôtel à ces mamans venues de loin pendant les 2-3 jours avant.
Une femme enceinte avant d'accoucher.
Voilà, c'est elle, va aller à l'hôtel.
Elle va aller à l'hôtel.
Ça lui plaît beaucoup. Allez, l'embrouille du jour. Alors que le bagad de la région Bretagne se rapprochait dangereusement de la région Hauts-de-France, le bagad s'est un peu tu. On peut continuer.
On l'entend encore bien. C'est le ministre du Travail qui est à l'origine de cette embrouille. Olivier Dussopt avait annoncé ces dernières semaines que 40 000 personnes bénéficieraient de la retraite à 1 200 euros. Pas de bol, un député PS est allé vérifier auprès de la Sécurité sociale qui lui a dit que ce dispositif ne concernerait en fait que 13 000 personnes. Olivier Dussopt avait maintenu sa version. Traité de menteur et d'imposteur à l'Assemblée par les députés PS et de l'ANUPS, le ministre a finalement reconnu qu'il avait gonflé les chiffres.
C'est compliqué, hein.
Cette histoire
là,
est extraordinaire.
Là, c'est plus
non, mais c'est extraordinaire.
Là,
c'est extraordinaire. Parce qu'on rappelle quand même qu'il s'agit du minimum. Du minimum. Alors,
des gens commencent par dire que c'est.
C'était pour tous.
Déjà, on commence par dire que c'est. Olivier Dussopt, c'est le ministre en charge de la réforme des retraites.
Voilà. Et bon, bien sûr, ça, c'est la base.
Déjà.
Et que c'était les 1200 bruts.
Pour tout le monde.
C'était pour tout le monde. Et c'était aussi un petit peu l'alibi social, de justice sociale de cette réforme.
C'était un élément.
C'était l'élément attractif. Voilà. Et qui justifiait. Que c'était une réforme de justice sociale. Donc, on est passé de 1200.
Là, ils vont pas être aidés. Pour convaincre. Hein.
Après, c'était « Ah ben non, c'est pas pour tous, en fait, c'est pour 1 800 000 personnes. Ouais. » Bon, ah ben non, en fait, c'est pas pour 1 800 000 personnes, c'est pour 40 000. Et on n'avait jamais dit que c'était pour tous. Mmh. Voilà. Et aujourd'hui, on arrive à 13 000. Je sais plus quoi dire à ce stade-là d'amateurisme. Et encore, amateurisme, c'est gentil. On est dans le mensonge, en fait, hein, clairement. On est dans le mensonge.
Bah en tout cas, il va falloir des explications.
Et la tromperie.
Bah, est-ce qu'il est encore temps? Parce que le mal est fait.
Mais en même temps, ils s'en foutent.
Non, mais est-ce qu'il est encore temps? Je dis ça parce que le mal est fait. Tu sais très bien, maintenant que la réforme a été présentée, c'était au mois de janvier par la ministre.
Oui, maintenant, on va dire, maintenant, elle est au Sénat.
Dans un débat qui va être un peu plus apaisé.
Mais néanmoins.
Oui, non, mais c'est pas ce que je veux dire, Daniel. C'est que, on a traité cette question il y a 2 semaines, je crois, il y avait un sondage qui nous disait. Que une majorité, une forte majorité, c'était 70% des Français, estimaient que cette retraite était mal ficelée, qu'ils ne comprenaient pas le texte. Parce que
et ben là, ça va ajouter à l'incompréhension. Et c'est vrai que depuis le début, j'étais dans le camp de ceux qui défendaient la réforme.
Ah si, non. à fond. Ah,
mais t'étais pas hostile.
Ah si, je me souviens, Daniel,
t'étais
à fond.
Hostile.
Oui.
Ah, t'étais à fond.
Tu veux.
Souviens-toi.
J'étais plus dans l'opposition à ceux qui ne passent leur vie qu'à critiquer que dans la défense. C'est un peu différent. C'est un peu différent quand même.
Contradiction.
Si tu me permets une nuance, c'est plus dans l'idée que de toute façon il fallait faire quelque chose. Maintenant, constater que il fallait faire quelque chose, les éléments qui étaient les éléments positifs ne sont que des balivernes, ça m'emmerde profondément.
Je t'ai pas entendu.
Parce que je pense qu'il faut fondamentalement faire quelque chose et qu'on ne peut pas rester en état. Mais si on nous raconte des choses fausses, là ça m'emmerde, oui, clairement.
Ça voulait dire que dès le départ, cette réforme a été peut-être mal pensée ou de façon précipitée. Et quand on est obligé aujourd'hui de rafistoler la vérité pour pouvoir faire passer la pilule, c'est qu'au départ, il y a un motif qui n'est pas celui.
Oui, mais là où c'est vicieux, c'est qu'on nous donne le chiffre aujourd'hui de 13 000 au moment où la réforme elle passe au Sénat et où elle va être adoptée au Sénat. Elle va être parce que majorité à droite, voilà. Ouais. Et donc on a aussi dupé son monde pendant tout ce temps-là de discussion parce qu'on n'a pas donné les bonnes informations. Mais quelque part aujourd'hui, ils sont passés au-delà parce qu'ils n'ont plus besoin de convaincre. Aujourd'hui, ils veulent faire voter.
Oui, enfin attention, ils n'ont plus besoin de convaincre, sauf que la semaine prochaine, tu n'es pas s'améliorer. C'est la rue qui va parler. Hein.
Absolument, mais sauf qu'Emmanuel Macron, il va dire, mais moi j'ai été élu pour ça. Après, les manifestations, ça va passer. Et puis, il compte aussi beaucoup sur la résignation, la fatigue des Français qui vont être écrasés par l'inflation, la crise énergétique, ils n'auront peut-être pas
l'énergie.
Et c'est là où, à mon avis, il y a une grosse erreur de stratégie. Parce que là, les Français, ils vont continuer à avoir l'énergie de... D'ailleurs, ils soutiennent le blocage du pays.
Ouais, on va voir. Ils soutiennent la journée du 7 mars.
On verra.
Si ça dure 4 jours, 5 jours, 6 jours, on verra après.
On verra.
Au fur et à mesure. Allez, absolument. Le redémarrage du jour, Alfred.
Il est à mettre au crédit du marché français de l'automobile. Selon la plateforme de la filière automobile, les immatriculations de voitures neuves ont augmenté de 9% par rapport à la même période l'année dernière. 126 000 voitures neuves ont donc été vendues. C'est le 7e mois de hausse consécutif, mais les niveaux de vente n'ont pas encore retrouvé leur niveau d'avant pandémie.
Daniel, rassurant ou pas? Parce qu'on sait que c'est de l'emploi, le marché automobile en France, et des centaines de milliers d'emplois. T'as pas entendu?
Non. Le marché automobile qui se porte bien, Daniel. Pour la septième,
mois, les ventes de voitures neuves redémarrent.
Généralement, on dit que c'est une bonne nouvelle, non? Quand le marché de l'automobile reprend, ça veut dire qu'il y a de la consommation. Dans un contexte où on nous dit justement on est en mal de pouvoir d'achat, est-ce que la voiture est redevenue un achat prioritaire pour les Français?
Ce que tu dis, c'est intéressant parce que c'est surprenant. Les chiffres de l'INSEE sont parus hier. La consommation des ménages a progressé, enfin a rebondi.
En tout cas, quand on voit les résultats des constructeurs, les bénéfices dégagés par les constructeurs, moi c'est vrai qu'à chaque fois je suis un peu surpris. Je me dis on est plutôt dans un contexte économique et social morose, et je vois les groupes comme Stellantis et autres groupes qui battent des records de bénéfices. Et donc ça veut dire que l'industrie de l'automobile se porte bien.
Gaël,
ça dépend quelle automobile, on ne sait pas. Parce que si c'est des Porsche qui marche bien, non. Je veux dire.
Mais non, t'as bien lu les résultats d'un groupe comme Stellantis où il y a une dizaine de marques dedans.
Oui. On est à plus 9% par rapport à la même année l'année précédente.
C'est pas que
les Porsche.
L'important est de savoir ce que ça rapporte à l'économie française. Est-ce que c'est bon pour notre
quelles marques sont vendues, c'est ça?
Est-ce que c'est bon pour nos emplois? Est-ce que c'est bon pour nos matières premières? Est-ce que c'est de l'acier français? Et est-ce que l'argent revient en partie en France, même si ce sont des firmes multinationales?
Dans l'automobile, il y a quand même pas mal de relocalisations de groupes, notamment étrangers, qui ont investi, et notamment dans les Hauts-de-France.
Oui.
Vous
avez encore une voiture comme la nouvelle C5 Citroën, qui est entièrement fabriquée en Chine.
C'est vrai.
Il n'y a pas un centime.
J'ai pas dit que c'était parfait.
Voilà, nous sommes d'accord, Rémi.
Bon, très bien. Nous, on se retrouve. Estelle Midi, c'est fini pour aujourd'hui. Et oui, déjà, Estelle Midi, comme tous les jours, midi 15h sur RMC, RMC Story. Demain, on se retrouve à la même heure et au même endroit. Nous serons en direct toujours du stand de la région Hauts-de-France depuis le Salon de l'Agriculture à Paris. C'est le pavillon 3. Vous pouvez venir nous rejoindre. Comme tout de suite, le Super Moscato Show au même endroit. Et puis ce soir, surtout, Roten sans flamme sera aussi en direct du stand des Hauts-de-France au Salon de l'Agriculture. On se retrouve demain. Bel après-midi à tous. Donc, à demain.
RMC, Estelle Midi.